Alors, c'est parti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo
Srila Prabhupada ki.
Bhagavate
Ja. Alors, on est à la page 67, ligne 29. Est-ce que tu voudrais lire?
Il y a des hommes qui peuvent s'avérer des exceptions, des hommes qui se posent des questions et surtout veulent sincèrement les bonnes réponses. Il n'y en a beaucoup, pas beaucoup, mais ils existent. La Bhagavad Gita 7.19 vous indique la réponse, la conclusion, l'aboutissement de toute recherche, non seulement dans une vie humaine, mais après même de nombreuses vies passées dans le cycle des morts et renaissances. Baunam Danmanam Ante, Yanavam Mam Papadiate, Vasudeva Sarvam Iti, Sa Ma Masu Durlaba. Baunam nombreuses, Danmanam mort et naissance répétées, Ante après. Yanavam, celui qui a la connaissance totale, Mam à moi, Papadiate s'abandonne, Vasudeva la personne souveraine, Krishna Sarvam tout, Iti ainsi, Sa Sept, Mahatma Gandham, Sudurlaba, Père Armand. Après de nombreuses morts et renaissances, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi, parce qu'il sait que je suis la cause de toutes les causes et tout ce qui est. Une si grande âme est infiniment rare. Je ne réponds pas. Après de nombreuses vies, l'homme vient à la pratique service de dévotion et de rite spirituel grâce auquel il atteint la connaissance transcendantale, pure et voit Dieu, la personne suprême, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Au début, le néophyte du temps pour se défaire de ses attaches matérielles a tendance à se tourner vers l'impersonnalité, mais en progressant, il comprend qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquelles constituent le service de dévotion. Dès lors,
Un instant, un instant. Alors, juste pour dire, on est arrivé à la page 68, ligne 10. Allô, Virginie?
Allô?
Ouais.
Avec
Alors,
Krishna,
on a
désolé
commencé
du
le
retard.
cours.
Avec Krishna, oui.
Ah.
Excusez-nous pour le retard.
OK. Alors, page 68, ligne 10. Vas-y, continue, Lynn.
Dès lors, il commence à s'attacher à l'aspect personnel du Seigneur suprême pour finalement s'en remettre entièrement à lui. Il réalise alors qu'il n'y a rien de plus important que la miséricorde de Krishna, que Krishna est la cause de toutes les causes et que l'univers matériel n'a aucune indépendance. Il comprend que ce monde n'est qu'un reflet perverti de la diversité spirituelle et que tout est lié au Seigneur suprême. Il voit tout en relation avec Vasudeva, Krishna, et cette vision universelle le projette vers le but ultime, l'abandon total au Seigneur suprême, Krishna. Mais une si grande âme est infiniment rare. Ce verset est expliqué dans le troisième chapitre de la Vritasvatara Upanishad 14-15.
Okay.
Oui,
Voilà voilà la traduction.
Okay. Le Seigneur Vishnu possède des milliers de têtes, des yeux par milliers et des milliers de pieds, englobant complètement l'univers. Il s'étend encore bien au-delà. Il est en fait cet univers dans son entier. Il est tout ce qui a été et tout ce qui sera. Il est le Seigneur de l'immortalité et de tous ceux qui se nourrissent. Il est dit aussi dans la Chandogya Upanishad 5.1.15, Devai Vacho na Sumshi na Srutrani na Manam Siti a Chaksate ana iti eva Kakshate Pranuti Evaitani Sarvani Bhavanti. Dans le corps se trouve le pouvoir de parler, de voir, d'entendre, de penser même, mais ce pouvoir ne constitue pas le facteur primordial. C'est la vie qui est le centre de toute activité. De même, Vasudeva Krishna, la divine personne, est l'être primordial qui est au centre de tout. Les facultés du corps, c'est-à-dire parler, voir, entendre, penser, etc., n'ont aucune valeur si elles ne sont pas reliées au Seigneur suprême. parce que Vasudev est omniprésent et parce que tout est Vasudev, le dévot s'abandonne à lui en toute connaissance. Bhagavad Gita 7.17 et 11.40.
Ouais, merci beaucoup. Alors, les versets 7, 17 et 11, 40 sont écrits dans les pages suivantes, dans la page suivante et ainsi de suite. Alors, on va commencer par commenter ce qui vient d'être lu. Alors, on retourne à la page 67. Ligne 29, c'est là qu'on a commencé et c'est là qu'on va commenter. Alors, Omgyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Srila Prabhupada Ki Jai. Alors, la première ligne, c'est il y a des hommes qui peuvent s'avérer des exceptions, des hommes qui se posent des questions et surtout veulent sincèrement les bonnes réponses. Mais avez-vous des questions, des commentaires sur ce que vous avez entendu? OK. Alors, des hommes qui se posent des questions et surtout veulent sincèrement les bonnes réponses. Alors, comment est-ce que les hommes qui ont aucune idée de qu'est-ce que c'est les bonnes réponses, peuvent savoir, ben, c'est quoi à un moment donné les bonnes réponses? Comment ça marche? Oui.
Ben, il faut se rapprocher d'un maître spirituel authentique et s'enquérir auprès de lui, de la connaissance absolue, de la vérité absolue, de la connaissance, la vraie connaissance.
Ça, c'est, disons, étape numéro 2. Étape numéro 1, numéro 2. Mais avant ça, c'est une très bonne réponse que tu as dite, là. C'est super.
Ben, il faut
Mais
développer son amour pour Dieu, déjà.
un petit peu, c'est pas tout à ouais, jusqu'à un certain point. C'est pas un critère absolument totalement nécessaire. Comment ça marche? C'est que Krishna est présent dans le cœur de chacun et il voit le désir de chacun et il va s'arranger par sa grâce de faciliter ce désir-là. Alors, si Krishna voit qu'il y a une âme sincère, mais qui, comme toutes les âmes conditionnées, baigne dans l'ignorance, ne sait pas quoi faire ou ne pas faire, et si Krishna lui montre sa miséricorde, Krishna va le guider pour venir justement à proximité ou en contact avec une âme pure, un pur dévot de Krishna, un maître spirituel. Et là, le processus est enclenché. Si la personne est vraiment sincère, elle va réaliser que c'est par là qu'il faut s'en aller. Par la grâce de Krishna, c'est Krishna qui l'éclaire. Krishna est dans le cœur. Krishna voit qui est sincère, qui l'est moins, et ou qui ne l'est pas du tout, trop plongé sous la domination de l'énergie matérielle. Alors, Krishna ne répond pas dans ce temps-là. Il y a juste un critère pour la conscience de Krishna, c'est la sincérité. Et ça, c'est le critère. Des fois, la conscience de Krishna peut nous jouer, pas nous jouer des tours, mais nous surprendre. Et nous, disons, il y a des choses, soit qu'on ne comprend pas, ou soit qu'on n'accepte même pas non plus. Et même si ça vient justement après, comment on peut dire? Après avoir entendu plusieurs fois certains messages de la conscience de Krishna, mais il y a des choses que soit on ne comprend pas, soit on n'accepte pas. On n'est pas prêt à. Alors ça, c'est normal dans un sens parce que la conscience de Krishna veut dire qu'il faut sortir du conditionnement matériel et c'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va laisser tomber ce qui est néfaste disons, à sa conscience de Krishna, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est pas tout à fait évident, ça. Mais par la grâce de Krishna, Krishna est dans le cœur, Krishna sait, et il va donner l'intelligence aux dévots. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pour ceux qui sont vraiment, qui me servent avec amour et dévotion, je donne l'intelligence par laquelle ils peuvent venir à moi. Alors, ça, c'est la preuve concrète que Krishna est dans le cœur du dévot. Krishna écoute qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, il voit qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, et il réciproque en conséquence. Et ça, c'est la beauté de la conscience de Krishna. Pour un dévot, il sait que peut-être j'ai certaines difficultés à ceci ou à cela, mais Krishna est dans mon cœur. Krishna est omniprésent et Krishna peut arranger les choses pour le mieux. Et ultimement, c'est toujours pour le mieux pour le dévot. C'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde a des expériences de vie aussi qui sont arrangées par Krishna et qui ont... Enfin, en bout de ligne, vont donner certaines leçons de vie aux dévots en question. Ça, c'est la grâce de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, comme c'est dit, on a lu, il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent. Alors, on peut penser à nous-mêmes, dans le sens qu'avant qu'on vienne à la conscience de Krishna, qu'on fasse le grand saut d'essayer de s'immerger dans la conscience de Krishna, ben Krishna nous a aidés, nous a guidés, qu'on en ait été conscient ou pas, mais c'est sûr que Krishna nous a aidés à trouver le chemin de la conscience de Krishna. Alors, la Bhagavad Gita nous indique la réponse, la conclusion, l'aboutissement de toutes leurs recherches, non seulement dans une vie humaine, mais après même de nombreuses vies passées dans le cycle des morts et renaissances. Alors, dans le monde matériel, même si on ne se souvient pas de notre passé, on prend pour acquis l'enseignement de Krishna que ça fait plusieurs fois qu'on est passé à travers le cycle de la naissance et la mort. Et la forme humaine de vie est l'aboutissement de la transmigration à travers les formes de vie précédentes. Et dans la forme humaine de vie, là, c'est l'opportunité par excellence de renouveler les liens avec Krishna. Le lien est éternel et immuable, et c'est juste une question de le raviver, d'en redevenir conscient. Ça, c'est la conscience de Krishna. Alors, Krishna dit ici dans la Bhagavad Gita, Bahunam Janmanam Ante. Bahunam. Bahunam s'est traduit ici au mot à mot par nombreuses. Mais dans une classe de Prabhupada, j'ai entendu Prabhupada dire la signification de Bahunam qui veut dire des millions. Des millions de naissances. C'est nombreuses, c'est beau, là, mais ça ne donne pas un chiffre, ça ne donne pas une quantité. Mais si c'est traduit comme littéralement, ça, des millions de naissances, à ce moment-là, ça change un peu la perspective parce que ça se dit, wow, c'est vraiment sérieux cette transmigration de l'âme-là, de passer à travers 8 400 000 espèces de vie pour finalement, si on n'arrive pas à la conscience de Krishna, ça va continuer, puis on s'en sort pas. Alors, Bahunam, Janma. Janma veut dire la naissance. Janmanam, ici c'est traduit par mort et naissance, répété. Ante, ça veut dire après. Ou ante veut dire aussi la fin. À la fin de nombreuses naissances, finalement on arrive à là, c'est dit ici, Gyanavan, celui qui a la connaissance totale. Alors là, si on n'a pas la connaissance totale soi-même, on ne devrait pas prendre pour acquis. Un, on n'est pas Krishna pour la connaissance totale. Ça, c'est pas nous, ça. Et puis deux, on n'est pas une âme réalisée qui a réalisé la vérité absolue non plus. Alors, celui qui a la connaissance totale, c'est une âme réalisée, un pur dévot de Krishna. de qui, justement, on devait prendre sa compagnie ou, sa, ou le fréquenter ou la, le servir. Et ça, c'est, on arrive à la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Où Krishna dit, essaie d'apprendre la vérité en approchant un maître spirituel avec une attitude de service et des questions non défiantes, mais des questions, comment on peut dire, sincères aussi. Comme Prabhupada dit, si on approche un maître spirituel, mais on n'a pas de questions à y poser, ça donne quoi? Prabhupada a déjà commenté comme ça. Ça sert à rien si quelqu'un approche un maître spirituel et il n'a pas de questions pertinentes. Pertinente, c'est un bon mot. Dans le sens que des questions pertinentes pour le maître spirituel à répondre à et pertinentes pour le disciple de poser les dites questions aussi. Alors, il y a un échange entre le maître et le disciple qui est aussi favorable ou positif autant pour le maître spirituel et autant pour le disciple en question. Alors, comme le Srimad Bhagavatam, dans le Bhagavatam ou même dans le Bhagavad Gita, Arjuna et Krishna, Arjuna pose des questions pas simplement pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de l'humanité entière, parce qu'Arjuna n'avait pas vraiment non plus totalement besoin des réponses. Il pose pour l'humanité des questions, et Krishna se fait un plaisir de répondre. Et c'est ça que Krishna veut. Krishna veut répondre aux questions d'Arjuna, parce qu'en même temps, il sait très bien que la réponse s'en va pour l'humanité, qui la plupart du temps est plus étourdie qu'autre chose. C'est la vie humaine qui est faite comme ça. Beaucoup de détourdissements, de, comment on peut dire, de déviation de la voie de la réalisation spirituelle. La vie humaine, la plupart du temps, est passée à manger, dormir, se reproduire, se défendre et penser que nous, on est avancé parce que nous, on n'est pas des animaux. On le fait pas comme des animaux, mais en fait, on le fait comme des animaux parce que le plaisir est le même. C'est aussi simple que ça, non? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui.
Pour aller dans le sens de ce que tu dis, ou alors une bonne partie, encore quelque chose que j'écoutais ce matin très tôt, c'est qu'en fait, ils se considèrent comme des animaux évolués. Donc, ils considèrent que pour ne pas rechercher une forme de divinité ou Dieu, en fait, se considèrent comme des animaux, mais ayant ça, c'est Darwin qui a laissé ses traces là-dessus, mais une bonne partie de l'humanité se considère quand même comme des animaux.
Hein. Ouais, disons.
Mais ils ne veulent pas être considérés comme des animaux. Mais dans pour les échanges que je peux avoir avec des personnes, c'est ce qu'on me sort souvent, en fait. Ouais, mais moi, je descends du singe, hein, donc j'ai mon évolution. Et toi, avec ton histoire de divinité, va voir plus loin, quoi, en fait.
Ouais,
expérience vécue.
Il y a de tout pour faire un monde.
Voilà.
Et il y en a qui, bon, pensent.
Surtout quand tu fréquentes tu fais des études, tu vas à l'université, tu fréquentes des gens qui sont en point justement de ce côté entre guillemets scientifique matérialiste. Et c'est ça qui ils se prennent pour les plus intelligents, les plus grands savants, les plus grands philosophes, les plus. Mais ils font que véhiculer des grosses âneries, en fait. Et ça se perpétue comme ça.
Oui, tout à fait d'accord. On a une nouvelle personne qui se joint au groupe, Benoît Labelge. Alors, on va le laisser arriver. Et on va continuer pareil. Alors, voilà. Alors, le verset 7.19 décrit la mentalité du Mahatma, cette grande âme qui comprend en fait ce qui est essentiel de comprendre de Krishna et qui s'abandonne à Krishna. Hare Krishna, Benoît.
Allô?
Allez, allez, bon.
Hare Krishna.
C'est la première fois que tu viens, je pense, hein?
Oui.
Bienvenue.
Merci.
Hare Krishna. Tu es de quel coin?
La Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides.
Ah, c'est super. Excellent. Bienvenue, bienvenue. En passant, c'est notre dernier cours de la saison aujourd'hui. On reprend les cours le 17 août. Alors, on fait un cours à toutes les deux semaines. Alors, à partir du 17 août, toutes les deux semaines. Aujourd'hui, c'est la fin de la session 2023-2024.
Non.
Mais on te souhaite de revenir.
Ben, certainement, certainement.
Parfait, excellent. Alors, j'ai tout fait, sharing. Je vais partager mon écran. Share. Oups. Non, c'est le screen. Bon, on a vu ça. On est à la... Tu vois, il y a les textes ici. Et on est à la page 68. On a lu. Ta, ta, ta. 67, OK. Ça, c'est fait. 68. Bon. On est en train de commenter le verset 7.19 de la Bhagavad Gita. Alors, c'est ici, là, dans ce coin-là. Je montre avec le curseur. Alors, dans... Dans cette teneur apportée de Srila Prabhupada, Prabhupada décrit la mentalité d'un dévot qui a la connaissance, comme on vient de le dire dans la traduction du mot à mot, il a la connaissance totale, il s'abandonne à Krishna complètement. Et Krishna dit, un tel dévot est très, très rare. Alors, Prabhupada, en même temps, dans sa teneur et portée, il décrit comment pense une personne qui s'est complètement abandonnée à Krishna. Quelle est sa vision des choses? Ça, c'est le premier paragraphe de la teneur et portée. Et est-ce que ça veut dire que nous, on ne sera jamais un heureux élu de penser tel qu'il est décrit dans le premier paragraphe de la teneur apportée. La réponse, la question est posée. Alors, on va relire le paragraphe. Après de nombreuses vies, l'homme vient à la pratique du service de dévotion et de rites spirituels grâce auxquels il atteint la connaissance transcendantale pure et voit Dieu, la personne suprême, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Alors, déjà là, Prabhupada nous décrit finalement l'aboutissement des nombreuses vies qu'on a pu avoir, l'aboutissement d'une sincérité dans le cœur de quelqu'un qui cherche la vérité absolue. Alors là, Prabhupada dit, ben finalement, il arrive à la pratique du service de dévotion et de rites spirituels grâce auxquels il atteint la connaissance transcendantale pure et voit Dieu, la personne suprême, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Là, on peut se poser une question. Comme Prabhupada décrit ici dans la deuxième phrase, Prabhupada dit, au début, le néophyte, luttant pour se défaire de ses attaches matérielles, a tendance à se tourner vers l'impersonnalisme. Mais en progressant, il comprend qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel desquelles constituent le service de dévotion. Alors, qui réalise ce que Prabhupada a écrit et quand est-ce qu'il va réaliser ce que Prabhupada a écrit? Ça, c'est du cas par cas. C'est individuel. C'est pas automatique. Alors, quelqu'un peut avoir lu la Bhagavad Gita plusieurs fois et ne pas nécessairement avoir saisi qu'est-ce qu'il y a dans cette teneur reportée. Est-ce que vous me suivez?
Oui.
Alors, c'est donné, c'est entre le dévot et Krishna. Comme on a expliqué au début du cours, c'est Krishna qui guide le dévot. Alors, voyant la sincérité dans le cœur du dévot, voyant jusqu'à quel point le dévot, en pratiquant le service de dévotion, a purifié son cœur, par la grâce de Krishna toujours, tous ces facteurs-là font que, petit à petit, le dévot va arriver, comme c'est dit ici à la fin de la première phrase, il atteint la connaissance transcendantale pure et voit Dieu, la personne suprême, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, voir Krishna comme le but ultime de la réalisation spirituelle, si on utilise une expression québécoise, quelqu'un peut dire, par exemple, et ça vous l'avez entendu, des gens qui disent, ah, ou peut-être même des dévots, vous pouvez avoir entendu ça chez des dévots, qui disent, ah, aujourd'hui j'ai eu un flash. Je viens de réaliser. Puis là, ils vont dire X, Y, Z. Mais un flash peut être aussi, ah, je réalise que la personne suprême est le but ultime de la réalisation spirituelle. Et ça, c'est pas une question de flash d'un jour. C'est une question de flash toujours, de penser comme ça. Alors, comment est-ce qu'on arrive là? Il faut l'entendre, l'écouter de nombreuses fois. Combien de fois Srila Prabhupada, dans ses livres, dans ses teneurs reportées, répète le même message? Toujours le même message. J'explique. Deux points. Le même message que la vérité absolue est réalisée en trois étapes. D'abord, le Brahman impersonnel. Deux, le Paramatma. Et trois, Bhagavan, Dieu en personne, dans sa forme personnelle. Alors, et Prabhupada l'explique que ces étapes-là, et il ne dit pas comme tel que... Comment on peut dire? Il les explique de façon objective. Une personne peut, mettons, il explique ce que les impersonnalistes recherchent, de se fondre dans le Brahman impersonnel. Les yogis qui cherchent la forme de Dieu dans leur cœur, qu'on appelle le Paramatma, est une forme de Krishna, une émanation de Krishna, mais à quatre bras. Et Bhagavan, la forme originelle de Krishna, une forme à deux bras, qui joue la flûte, qui a une plume de pan sur la tête, de couleur un bleu noir. Ça, c'est la forme personnelle de Krishna. Alors, quand un dévot arrive à saisir que Dieu, la personne suprême, est le but ultime de la réalisation spirituelle, qu'est-ce qui arrive dans la vie du dévot? Ou qu'est-ce qui devrait arriver?
Il
Qu'est-ce que tu entends par qu'est-ce qu'il arrive au dévot? Il se transforme, en fait.
Je dis, qu'est-ce qui arrive dans la vie du dévot? C'est ça que je dis.
Qu'est-ce qui arrive dans la vie?
Un dévot qui a réalisé que la personne suprême est le but ultime de la réalisation spirituelle. Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Si le dévot a réalisé justement que Krishna est le but ultime de la réalisation spirituelle, il faut que ça ait un impact dans sa vie. Pourquoi c'est comme ça?
Il ne souffre plus, par exemple.
Ça c'est
une bonne vision de. Tu as la vraie vision, donc tu ne souffres plus des conséquences de tout ce qui se passe autour de toi. En fait, tu n'es plus soumis puisque tu sais que c'est Krishna qui est partout, qui est en toutes choses, qui est dans le cœur de chaque être et que de toute façon. On doit se tourner vers Krishna. On n'a pas d'autre direction à prendre, en fait,
ouais,
en tant que personne distincte.
Ouais, ça c'est très bien. Alors, un exemple peut être donné, pas pour ce que tu viens de dire, mais sous un autre angle. Il y a plusieurs angles qu'on peut considérer. Que si Krishna est le but ultime de la réalisation spirituelle, on ne peut pas, en même temps, rester esclave du plaisir des sens. Ça c'est comme l'eau et le feu. Si on veut un feu bien brillant, bien éclatant, on peut pas verser de l'eau dessus en même temps. Ça ne marchera pas. Alors, la même chose. Dans la réalisation spirituelle, le Bhakti Yoga, il y a deux facteurs qui sont à prendre en considération ou qui sont pris en considération, à savoir la connaissance et le détachement. En servant Krishna, on obtient la connaissance et en même temps le détachement des choses matériel ou de la matière. C'est deux phénomènes qui se passent simultanément. Alors, si on fixe Krishna comme le but ultime de la réalisation spirituelle, qu'on est très sérieux à ce sujet-là, notre vie va se modifier en conséquence. Alors, comment elle va se modifier en conséquence? Ça, c'est individuel, mais en même temps, il y a des instructions, des enseignements, des maîtres spirituels passés et présents pour nous guider à cet égard. Alors, si on fixe ce à quoi ça se résume aussi, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita au chapitre 7, verset 28. Où Krishna dit, ceux qui ont agi dans le passé de façon vertueuse et dont les réactions d'activités pécheresses sont complètement arrêtées et qui sont libres des dualités de l'illusion, ces personnes-là m'adorent avec grande détermination. Ça, c'est dans le chapitre 7, verset 28. Alors, ça, c'est justement une preuve qu'une personne a fixé Krishna comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Alors, comme vous pouvez voir, ce n'est pas bon marché. Il faut payer le prix pour en arriver là. Et Krishna voit, Krishna regarde jusqu'à quel point un dévot est prêt à payer le prix pour, en fait, arriver à sa personne, à lui-même. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ces sujets-là sont sujets à réalisation. Et ça vient avec le temps. C'est Krishna qui donne des coups de pouce à gauche et à droite, des réalisations pour que le dévot, justement, soit plus approfondi dans sa démarche de retour à Krishna. Et tout ça, c'est la grâce de Krishna aussi. Alors, Krishna est très, comment on peut dire, très bienveillant envers les dévots. Alors, on continue à lire ici à la ligne 8. Au début, le néophyte, luttant pour se défaire de ses attaches matérielles, a tendance à se tourner vers l'impersonnalisme. Mais en progressant, il comprend qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquelles constituent le service de dévotion. Alors, ça, c'est intéressant. Est-ce que un dévot néophyte n'est jamais tourné vers l'impersonnalisme? Quelle est la réponse? Ah, donc, en théorie, un dévot, un Vaishnav, n'est pas supposé d'être versé dans l'impersonnalisme. Mais, l'impersonnalisme veut dire, à partir de quel moment, de quelle frontière, on dit que, ah, ça c'est impersonnel, ça c'est personnel. Qu'est-ce qui fait que c'est personnel? Par différenciation de l'impersonnalisme. Un mot.
L'être.
L'être. L'être, OK. Mais quel être?
Dieu, la personne suprême.
Exactement. Qu'est-ce qui fait la différence entre personnalisme et impersonnalisme? C'est qu'il faut que Dieu ou Krishna soit dans l'équation. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple qui vient de m'arriver il y a quelques jours de ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'offre un petit bidule et qui me dit, moi, je sais pas c'est quoi ce bidule-là. Et le petit bidule, on m'explique que, ah, c'est pour chasser les choses de mauvais augure. Alors, d'accord, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Et je repense à ça par après, puis je me dis, en fait, qu'est-ce qui chasse complètement les choses de mauvais augure automatiquement? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un petit bidule pour s'occuper de ça ou j'ai autre chose qui fait la job?
Mais c'est Krishna, notre relation avec Krishna.
Exactement. C'est le Maha Mantra en particulier. Quand on chante le Maha Mantra, il y a rien d'inauspicieux. En fait, tout devient auspicieux.
C'est juste le meilleur.
Avec la vibration sonore transcendantale. Alors, la meilleure solution pour rendre les choses de bon augure, c'est le Maha Mantra. Bon, ensuite, on lit ici dans la teneur portée. Mais en progressant, il comprend qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquels constituent le service de dévotion. Alors, il y a un problème avec les impersonnalistes et les personnalistes. Parce que les impersonnalistes, pour eux autres, qu'on appelle Mayavadi, tout ce qui existe, c'est quoi? Un mot.
L'absolu?
Non.
Le vide.
Pour les impersonnalistes, il y a juste une chose qui existe.
L'énergie.
L'énergie.
Maya.
Maya, l'énergie, voilà ça. L'énergie matérielle.
L'énergie divine.
C'est ça.
Voilà,
c'est
l'énergie.
Ça. Alors, pour les autres, tout est matériel. La vérité, c'est ce qui n'est pas matériel, mais ils sont pas arrivés encore à ce que Prabhupada décrit ici. Mais en progressant, ils comprennent qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquelles constituent le service de dévotion. Ça n'existe pas pour eux autres. Ça existe juste avec une optique de se fondre à un moment donné dans le Brahman impersonnel, mais dans le Brahman impersonnel, il n'y a pas d'activité. L'âme va juste flotter dans le Brahma Jyoti, puis ensuite, après un certain temps, elle doit revenir au niveau matériel. Ils se pensent libérés, ou ils se pensent qu'ils vont être libérés en se fondant dans le Brahma Jyoti, et en bout de ligne, ça s'avère faux. Ils doivent retomber de cette illusion. Et comme Prabhupada explique, la plus grande illusion, le dernier piège de Maya, c'est de s'identifier à Dieu, de se prendre pour Dieu. Ça, c'est le problème des impersonnalistes. Alors, ils sont pas arrivés là. Mais pour un dévot, lui peut avoir cette réalisation, à savoir qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquelles constituent le service de dévotion. Alors, est-ce que le dévot veut redescendre au niveau matériel, ou est-ce qu'il veut se maintenir au niveau spirituel du service de dévotion? Quelle est la réponse?
La deux.
Spirituel.
Ben oui. Le dévot veut se maintenir autant que possible au niveau spirituel. Ça veut dire ça, qu'il doit toujours être conscient de son identité spirituelle, à savoir qu'il est une âme spirituelle, et se remémorer continuellement sa relation avec Dieu, avec Krishna, et, disons, cultiver en lui son amour, son attachement pour Krishna, par le service de dévotion. Et ça, c'est le plaisir de servir Krishna. Krishna réciproque avec le dévot. Les impersonnalistes n'ont pas ce plaisir-là. C'est malheureux. En fait, les impersonnalistes sont, il n'y a pas plus envieux de Dieu que ces personnes-là. Et peut-être même, ils s'en aperçoivent même pas, mais ils sont, comment on peut dire, en anglais on dit drill, ils sont entraînés, ils sont formés, ils sont
un formatage
dans leur tête que il faut qu'ils se dirigent vers, disons, si on peut dire, la fusion ultime avec la lumière impersonnelle. C'est très malheureux. Il se prive du plaisir spirituel au niveau spirituel. Même s'ils se disent, disons, des âmes même, jusqu'à dire qu'ils sont des âmes libérées alors qu'ils ne le sont pas, vraiment. Oups. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, dès lors, il commence à s'attacher à l'aspect personnel du Seigneur suprême pour finalement s'en remettre entièrement à lui. Alors, ça, c'est là, Prabhupada développe le côté positif du service de dévotion. Alors, ça, c'est une étape. Il réalise alors qu'il n'y a rien de plus important que la miséricorde de Krishna, que Krishna est la cause de toutes les causes et que l'univers matériel n'a aucune indépendance. Ça, c'est important. Très important. Il y a un verset dans les écrits védiques qui dit que en connaissant la cause de toutes les causes, on est arrivé à l'étape d'avoir toute la connaissance. Tellement c'est important de connaître la cause de toutes les causes. Ça veut dire qu'on est capable de reculer en arrière et puis comprendre, ah, c'est Krishna qui est à l'origine. Comprendre la raison d'être de l'existence de l'univers matériel, comment l'univers matériel est créé, comment il est maintenu et comment il est détruit et résorbé en Krishna. Et le dévot là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour être conscient de Krishna, servir Krishna, comme si, qu'est sa position constitutionnelle originale, serviteur de Krishna. Alors, il comprend que ce monde n'est qu'un reflet perverti de la diversité spirituelle et que tout est lié au Seigneur suprême. Ça, c'est assez clair. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre que c'est un reflet perverti de la diversité spirituelle? Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Est-ce qu'on peut... Pardon, peux-tu répéter, s'il te plaît?
Toute parole ou texte ne conduit pas vers Krishna, c'est pour...
Oui, exactement. C'est en écoutant les descriptions du monde spirituel qu'on va pouvoir réaliser que le monde matériel n'est qu'un reflet perverti de la diversité spirituelle. Alors, donnons un exemple, parce que ça, c'est la théorie, mais un exemple de cela. Prabhupada, dans une classe, explique dans le monde spirituel comment sont appelés les arbres. Comment est-ce qu'on appelle les arbres dans le monde spirituel? En sanskrit, on les appelle kalpavriksha. Kalpa Vriksha. Et la traduction, c'est « ce sont des arbres à souhait ». Alors, Prabhupada explique, dans le monde spirituel, les dévots qui sont dans le monde spirituel n'ont pas de désir. Mais ils ont un désir de servir Krishna tout le temps. Alors, dans le monde spirituel, il y a des Kalpa Vriksha, des arbres à souhait. Et Prabhupada dit qui peuvent donner n'importe quelle variété de fruits en n'importe quelle quantité pour satisfaire les désirs des dévots de servir le Seigneur suprême. Ça, c'est le monde spirituel. Alors, les arbres dans le monde spirituel sont appelés kalpavriksha. Et ça, c'est dans le Brahma Samhita. Il y a un verset qui parle justement kalpavriksha lakshavriteshu. Lequel verset? C'est un verset que Prabhupada cite assez souvent et qu'il commente assez souvent. Si on écoute la Brahma Samhita chantée par Srila Prabhupada, ça c'est expliqué. Alors, quand on regarde les arbres du monde matériel, Prabhupada explique aussi, ils sont limités à une variété et ils sont limités aussi par les saisons. Quand ce n'est pas la saison, oubliez ça, vous n'avez pas de fruits. Alors, quand c'est la saison de récolte, vous allez avoir les fruits, mais en quantité limitée aussi. Puis dans notre bel âge de Kali, les arbres sont pas trop productifs parce qu'ils sont assaillis d'insectes, etc. Alors, changement climatique, si on peut dire. Alors, faut les asperger d'insecticides, puis là, ils vont donner des beaux fruits. Puis les gens vont acheter ces fruits-là et ne vont pas acheter nécessairement les fruits qui ont pas de l'air beau. Les fruits qui sont bons mais mal formés, ça c'est pas bon pour les tablettes des supermarchés. Alors, ça c'est le monde matériel. Alors, ça c'est un petit exemple. Un reflet perverti de la diversité spirituelle. Ensuite, c'est dit que tout est lié au Seigneur suprême. Bien, dans le monde spirituel, tout existe pour le plaisir de Krishna. Tous les êtres vivants sont conscients de Krishna. Tout est vivant aussi. La chaise est vivante. Pas comme dans le monde matériel, la chaise est de la matière inerte. Mais dans le monde spirituel, la chaise est vivante. Puis la perfection de la chaise, c'est que Krishna vienne s'asseoir dessus. Ça, c'est sa perfection pour la chaise spirituelle. Il y a une variété spirituelle. Prabhupada dit, tout ce qu'il y a dans ce monde matériel, ce n'est qu'une réflexion pervertie de ce qui existe dans le monde spirituel. Ensuite, c'est dit ici. Il voit tout en relation avec Vasudeva, Krishna, et cette vision universelle le projette vers le but ultime, l'abandon total au Seigneur suprême Krishna. Mais une si grande âme est infiniment rare. Alors, ça demande beaucoup de purification du cœur pour arriver à ce genre de réalisation-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, alors on va continuer. Alors, on passe à la page suivante. Alors, page 69. Est-ce que tu vois les textes, Benoît?
Oui, je vois, oui.
D'accord. Est-ce que tu veux lire?
Ah, bon, là, c'était trop petit. J'ai pas le livre avec moi.
Ah, OK. Bon, laisse faire, d'abord.
Mais là, c'était trop petit, je suis pas capable.
OK. Tu peux pas l'agrandir?
Ouais, mais là, sur mon ordinateur, je n'ose pas trop parce que des fois, ça disparaît, puis.
OK. On va laisser faire. OK. On va demander, Virginie, de lire, s'il te plaît.
Est-ce que vous entendez? J'ai le voisin qui passe la débroussailleuse. Est-ce que vous entendez le bruit derrière moi?
Non, on n'entend pas. Moi, okay, j'entends pas.
Super. Voici les versets cités en fin de la teneur et portée précédente. Teshyam, Jami, Nitya, Yukta, Eka, Bhaktir, Vishish, Yate, Priyogi, Yajnino, Tiartam, Aham, Satcha, Mama, Priya. Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 17. Desham parmi eux, Yajini, celui qui a la connaissance totale, Nitya, Yukta, toujours engagé, Eka, seulement, Bhaktich, dans le service de dévotion, Visis Yate, et spécial, Priyaich, très cher, Hi, certes, Yajnina, à celui qui a la connaissance, Atiartam, hautement, Aham, je suis, Saish, lui, Cha aussi, Mama, à moi, Priyaha, ok, merci.
La voyelle qui précède un H avec un petit point, c'est celle-là qui passe après le H avec un petit point.
D'accord.
Voilà.
Priyaha.
C'est ça.
Cher. Le sage au parfait savoir, constamment absorbé dans le service de dévotion, est le meilleur d'entre eux tous, car il m'est très cher, comme je lui suis très cher. Teneur et portée. Lavé de la contamination causée par leur désir matériel, le malheureux, le curieux, le démuni et l'homme en quête de la connaissance suprême peuvent tous devenir de purs dévots. Mais parmi eux, celui qui possédera la connaissance de la vérité absolue, en étant libéré de tout désir matériel, le deviendra véritablement. Et des quatre, dit le Seigneur, le plus grand est celui qui possède la connaissance et adhère au service de dévotion. Car en cultivant la connaissance, on réalise que le soi se distingue du corps matériel qu'il habite. Puis, en continuant de progresser, on découvre le Brahman impersonnel et le Paramatma. Enfin, lorsque la purification est totale, on prend finalement conscience de sa nature intrinsèque d'éternel serviteur de Dieu. Ainsi, au contact de purs dévots, le malheureux, celui qui veut améliorer ses conditions de vie, celui qu'anime la curiosité et celui qui possède la connaissance, tous se purifient. Mais celui qui, au stade préliminaire, a pleine connaissance du Seigneur suprême et simultanément le sert avec dévotion, est très cher au Seigneur. En vertu de la connaissance pure et de la transcendance de la personne divine qu'il détient, il bénéficie d'une telle protection dans l'accomplissement de son service dévotionnel qu'aucune contamination matérielle ne saurait l'affecter. Ce verset est très pertinent. La purification du cœur est essentielle pour devenir un pur dévot. Tout dévot se purifie du fait de s'engager dans le service de dévotion offert au Seigneur. Tout espoir est permis pour un dévot, du premier jusqu'au dernier. Et du fait de son service, le dévot bénéficie d'une telle protection dans l'accomplissement de son service dévotionnel qu'aucune contamination matérielle ne saurait l'affecter.
OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait un petit peu avant, en fait.
Élabore un petit peu.
Ben, que c'est le... qu'il y a plusieurs façons d'approcher, mais que la personne qui est la plus chère et le lien qui sera le plus fort entre le dévot et le Seigneur suprême, c'est celui qui s'engage dans le service de dévotion et qui s'abandonne complètement à Krishna, en fait.
Ouais. Alors, comme c'est expliqué, ça c'est un verset qui est la suite des choses, comme Krishna dit. Il y a quatre genres de personnes qui approchent Krishna dans le service de dévotion. Le malheureux, le curieux, le démuni et l'homme en quête de la connaissance suprême. Alors, parmi ces quatre-là, Krishna dit que celui qui est en quête de connaissance suprême, lui est plus cher. Tout comme Krishna est très cher. Comme c'est dit ici, comme Krishna qui dit, comme je lui suis très cher. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. La dernière phrase de la teneur portée. En vertu de la connaissance pure de la transcendance de la personne divine qu'il détient, il bénéficie d'une telle protection dans l'accomplissement de son service dévotionnel qu'aucune contamination matérielle ne saurait l'affecter. Alors, quel exemple pourrait-on donner de cette protection, la description de la protection que Prabhupada donne? Quel exemple qu'on pourrait donner? Alors, un exemple pourrait être le dévot ne joue pas avec le feu. L'énergie matérielle est très puissante et elle peut conquérir n'importe qui dans le monde matériel. Comme c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, même le Seigneur Brahma, une de ses bonnes fois, est tombé sous l'influence de l'énergie matérielle et il est en train de courir après sa propre fille. Alors, il s'est ressaisi et c'est un divertissement ça aussi de Krishna. Finalement, il a fini par se ressaisir et alors, même Seigneur Brahma, même Seigneur Shiva aussi, un jour, Seigneur Shiva était au courant qu'il existe l'incarnation féminine de Krishna, qui s'appelle Mohini Murti. Est-ce que vous connaissez cette incarnation de Krishna? Mohini Murti. Alors, Mohini Murti c'est une femme, c'est Krishna dans un corps de femme très, très, très séduisant. Et le Seigneur Shiva voulait voir cette forme-là. Et à un moment donné, Mohini Murti se présente devant le Seigneur Shiva. Et le Seigneur Shiva est en compagnie de son épouse. Et là, le Seigneur Shiva perd les pédales. Il est tellement attiré par cette Mohini Murti. Et Mohini Murti, comme c'est Krishna, va pas se laisser tomber dans les bras du Seigneur Shiva facilement. En fait, elle n'a pas tombé dans les bras du Seigneur Shiva. Le Seigneur Shiva, la Mohini Murti a traîné, si on peut dire, le Seigneur Shiva, elle le fait passer à travers les ermitages des yogis qui méditaient dans la forêt. Et Mohini Murti voulait montrer à ces sages-là qui étaient dans la forêt, voyez jusqu'à quel point l'attraction sexuelle, qu'est-ce que ça peut faire. Regardez ce Seigneur Shiva qui court après moi. Et finalement, le Seigneur Shiva ne pouvait plus se contenir. Et finalement, il a eu une décharge séminale jusqu'à ce point-là. Et là, ensuite, il était satisfait. Mais il n'a jamais rattrapé Mohini Murti. Et c'était une leçon que le Seigneur Krishna, dans sa forme Mohini Murti, voulait donner à ceux qui sont engagés dans la réalisation spirituelle. Wow! Alors, ça, c'est une des choses. Et alors, si le dévot fait que ce qu'il doit faire, servir Krishna, et il obtiendra une protection de Krishna, et puis le reste va passer à côté de lui, puis c'est tout ce que ça va être. Point final, that's it, that's all. Si le dévot s'en tient à suivre les principes régulateurs, et pourquoi c'est comme ça? Parce que le dévot, par la grâce de Krishna, a un engagement supérieur. Tout est une question de goût supérieur. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est du cas par cas, c'est individu par individu. C'est pas tous les dévots qui sont tous pareils. Puis si un dévot en particulier a une chute quelconque, c'est pas une raison de mettre tout le monde dans le panier, puis de dire ah, tu vois, les dévots, ils sont tous comme ça. C'est pas vrai. C'est une question individuelle. Et justement, dans le Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 30, Krishna dit que même si un dévot a une chute, il va se rectifier très rapidement. Pourquoi? Parce que il est une personne sainte, finalement. Le dévot devient conscient de ses écarts, s'il y en a eu, et Krishna le corrige dans son cœur. Et il faut jamais voir de haut des dévots qui ont eu un problème en cours de route. Krishna va les rectifier en temps et lieu. Ça, c'est la grâce de Krishna. Alors, comme Krishna dit, comme Prabhupada écrit ici, il bénéficie d'une telle protection dans l'accomplissement de son service dévotionnel qu'aucune contamination matérielle ne saurait l'affecter. Ça, c'est dans la mesure où il est engagé avec détermination uniquement et simplement dans le service de dévotion. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que l'association y est pour beaucoup. Si on s'engage dans le service de dévotion, quel genre d'association on va avoir?
On s'associe de préférence avec des dévots.
Exactement. Et si on s'écarte, puis on mettons qu'on est immergé dans l'association des non-dévots, ça va avoir une influence. Mm-hmm. Cependant, si le dévot, même s'il est entouré de non-dévots, mais s'il est déterminé dans son cœur et dans sa pensée, dans ses actions, à servir Krishna du plus profond de son cœur, il ne sera pas affecté, même s'il est en présence de nombreux non-dévots. Encore là, c'est Krishna dans le cœur qui voit le dévot, qui protège le dévot. Mais si le dévot, pour une raison ou pour une autre, disons, flirte un peu avec l'énergie matérielle, ben l'énergie matérielle va prendre son lot aussi. C'est la nature d'être dans le monde matériel. Et soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais par contre, si le dévot prend refuge de Krishna, par la grâce de Krishna, il a juste à continuer. Il est protégé. Alors, qu'est-ce qu'un dévot peut faire dans le service de dévotion pour être protégé? C'est une bonne question. Parce que des fois, au niveau matériel, quelqu'un peut penser matériellement parlant, il peut penser, ah, je n'ai rien à faire. C'est comme les petits-enfants qui ont des vacances d'été. Ils sont 2-3 mois en vacances, puis là, les parents les regardent, puis à part de faire des mauvais coups, s'ils en font, les parents vont observer, ah, il s'ennuie. Qu'est-ce que je dois faire pour soit le désennuyer ou le faire passer le temps pour lui? Mais ils voient qu'il y a un ennui. Ils savent pas quoi faire. Ah, ils s'ennuient. C'est la même chose des gens quand ils vont à l'hôpital. Ils s'ennuient. Ça, c'est dans leur tête, là. Oui, c'est ennuyant. Oui, c'est souffrant, on peut pas dire le contraire, mais pour un dévot, il a un refuge, il a une bouée de sauvetage qui est sous la forme des activités dévotionnelles. Alors, il y a 9 activités dévotionnelles. La première, c'est Shravanam, écouter au sujet de Krishna, Kirtanam, parler ou décrire les gloires de Krishna, Vishnu Smaranam, se souvenez de Vishnu, souvenez de Krishna. Pada Sevanam, servir les pieds pareils, le tus de Krishna. Archanam, adorer les murtis de Krishna. Vandanam, offrir des prières à Krishna. Sakyam, se lier d'amitié avec Krishna. Et Atmani Vedanam, tout abandonner à Krishna. Alors, les 2 dernières activités, Prabhupada dit, ça, c'est pour les âmes réalisées, ça, c'est pour les âmes libérées. Être un ami de Krishna. Alors, d'une façon ou d'une autre, un dévot qui est vraiment sincère, va toujours chercher à être réfugié en Krishna par ses activités dévotionnelles. Alors, comme par exemple, il y a des dévots, ils sont à l'hôpital. Ils ont besoin d'être à l'hôpital parce que leur corps, pour une raison ou pour une autre, a un problème. Mais ils vont chanter Hare Krishna pareil. Il y a un des gourous dans l'ISKCON que, disons que c'est, il a eu, et s'il n'a pas encore, de nombreux séjours dans les hôpitaux. C'est sa condition de santé. Mais quand il est allé à l'hôpital ou quand il va à l'hôpital, il demande au dévot de lui procurer ce qu'on appelle en anglais counter. Il va pas chanter des tours avec son chapelet sur son lit d'hôpital, mais il va chanter avec un bidule pour compter. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le pouce, tu comptes. Un compteur. Alors, il chante ses tours comme ça. Alors, il est dans son lit, il chante un mantra. Clic, un autre mantra, clique, puis il chante ses tours comme ça. Alors, comme on dit, qui veut peut, et disons, qui veut peut, mais par la grâce de Krishna. C'est pas juste une question de vouloir personnellement, mais ça prend la grâce de Krishna qui voit le désir sincère, le désir précis du dévot et qui l'aide à avoir l'intelligence pour s'absorber dans le service de dévotion. Alors, un dévot, disons, un dévot qui est humble ou, disons, suffisamment humble, pas se croire l'auteur de tous ses actes, Krishna va l'aider à rester conscient de Krishna puis à trouver une façon d'être engagé dans le service de dévotion. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Bon, alors on va continuer. Il ne reste pas grand temps. Voilà. Voici le... Bon, qui veut lire? Ananda.
Avec plaisir. Voici le deuxième verset cité précédemment, Bhagavad Gita 7.40. Il s'agit d'une prière d'Arjuna lorsqu'il contemple la forme universelle du Seigneur. Namaha.
Pense à la traduction tout de suite.
Parfait. De devant, de derrière, de toutes parts, je te rends hommage, ô puissance infinie. Pardon. Ô puissance infinie, maître de pouvoir sans mesure, toi qui pénètre tout et ainsi qui es tout. Teneur et portée. Le cœur empli d'extase pour Krishna, Arjuna, son ami, lui rend de toutes parts son hommage. Il reconnaît en lui le maître de toute puissance, de toute prouesse, de loin supérieur à tous les grands guerriers assemblés sur le champ de bataille. Il est dit dans le Vishnu Purana 1.9.69, Yoyam Tavagato Deva Samipam Devata Ganaha Setvam Eva Gagat Srasista Yataha Sarva Gato Bhavam. Ô personne suprême, il n'est nul être, fût-il un Deva, qui puisse se présenter devant toi, qui n'appartienne à ta création. La conclusion, devenir conscient de Krishna sur le champ de peur de rester figé dans le carcan de l'ignorance. Que cela ne nous fasse ni chaud ni froid de demeurer si main ignorance et faire preuve sans piternelle attitude rebelle à l'égard du bienfaiteur universel qu'est Krishna, Dieu, la personne suprême. C'est lui qui nous donne le savoir védique pour nous en sortir. Refuser de s'instruire et agir en conséquence est très désobligeant de notre part. Quelqu'un peut rétorquer qu'après tout, c'est Dieu qui nous a créés dans l'ignorance. Effectivement, mais il y a une raison à cela. C'est la vie matérielle qui nous a attirés en premier lieu, et cette vie matérielle est de qualité très inférieure par rapport à la vie spirituelle, à l'état libéré dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas le choix de Dieu de nous plonger dans le monde matériel, ce fut notre choix. Il faut qu'on se le tienne pour dit. Que reste-t-il pour nous faire revenir à la maison, à la raison? Ingénieusement, les trois formes de souffrance, les maladies, les catastrophes naturelles, les ennemis. Viennent les guerres, les embûches, les tribulations, les naufrages, les injures, les frustrations, les exploitations, les échecs, les martyrs, les tortures, la vieillesse, les abus, les agressions, les abandons, etc. Et, à la fin, la mort cruelle pour abîmer tout espoir même de persévérance à s'entêter. Mais la victime est coriace, elle revit toujours. Des épreuves de temps à autre dans la vie d'un bhakta s'avèrent propices à sa vie spirituelle, juste au cas où il serait encore leurré par une forme ou autre de satisfaction des sens inappropriés. Avec les yeux de la connaissance, il finira toujours par en apprécier le pouvoir de rectification. Voyez-vous le bien fondé de pareille grâce divine?
Voilà, c'est terminé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui,
Oui.
Juste un petit mot. Là, c'est en fonction de quelqu'un qui a une démarche. Quand c'est écrit que refuser de s'instruire et agir en conséquence est très désobligeant de notre part. Mais on ne peut pas dire ça de quelqu'un qui est ignorant. C'est quelqu'un qui a déjà un peu cheminé, je ne sais pas, désobligeant. Point d'interrogation. Je ne comprends pas, là.
Dans une certaine mesure, on est dans cette position-là. Par exemple, si quelqu'un, mettons, dans la rue, reçoit une Bhagavad Gita d'un dévot, il prend la Bhagavad Gita puis il la met sur la tablette pendant 10 ans. Mettons que par la grâce de Krishna, au bout de 10 ans, il se rappelle, ah, j'avais eu ce livre-là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais pendant 10 ans, il a, sans le savoir, refusé de s'instruire. Et c'est la même chose, même avec nous, qui, si on ne saisit pas les opportunités dans notre vie de Shravanam, Kirtanam, autant qu'on pourrait le faire, on est dans cette position-là aussi, on refuse de s'instruire, que ça nous fasse plaisir ou non. Est-ce que j'ai tort?
Oui, je comprends maintenant de ce que vous venez de dire. Il reste que, même si la personne pendant 10 ans l'a laissé, donc elle ne s'est pas débarrassée de sa Bhagavad Gita parce qu'elle aurait pu le mettre au recyclage, mettons, là. Elle a quand même gardé.
Oui.
Donc, oui, 10 ans, ben, je sais pas, là, c'est quand même.
Mais okay.
C'est quand même bien, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu simplement passer son chemin et merci, bye. Donc, il l'a pris, et même si ça l'a pris 10 ans, il a quand même commencé à lever.
Oui. Mais il faut faire un lien avec l'origine de notre conditionnement matériel. Il faut faire un lien avec ça et puis parce que comment on peut dire que attendez, on dit ici que cela ne nous fasse ni chaud ni froid de demeurer sciemment ignorant, c'est faire preuve de sempiternelle attitude rebelle à l'égard du bienfaiteur universel qu'est Krishna. On a cette attitude rebelle à Krishna. Depuis des temps immémoriaux. Alors, à une certaine étape de notre vie, on peut en être conscient, pas conscient du tout, et même si on en est soi-disant conscient, continuer à agir avec cette forme de rébellion-là dans notre cœur. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre un dévot et un pur dévot? C'est justement cette purification dans le cœur qui va justement à l'encontre de cette rébellion originelle qu'on a à l'égard de Dieu, puis s'abandonner complètement à Krishna, puis en être complètement, absolument certain, absolument purifié de cette attitude-là. Mais cette attitude-là est profonde, elle est coriace, elle est endurcie. Alors, pourquoi le mouvement de Sankirtan existe? Qu'est-ce que le mouvement de Sankirtan du Seigneur Chaitanya? La première des choses que le Seigneur Chaitanya dit dans son Sikshastakam, il dit « Gloire au mouvement de Sankirtan qui purifie le cœur de toutes les impuretés accumulées au cours des âges. » Ça, c'est le Sankirtan. Alors, si quelqu'un dit, par exemple, moi, je suis d'accord. Moi, je veux être un pur dévot. Je veux faire tout ce qu'il faut. Chanter avec Krishna. C'est parfait. C'est bien. Mais toujours est-il que il faut arriver à l'étape de participer au Sankirtan, parce que c'est le processus par excellence dans l'âge de Kali, de chanter en groupe le Mahamantra. Alors que c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça c'est bien évident là. C'est pas tout le monde, par exemple, qui vit dans un temple. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller se promener en public avec les dévots. C'est pas tout le monde, ça. Mais au moins comprendre. Essayer de faire quelque chose pour le mouvement de Sankirtan. Ça va donner des fruits, ça va purifier le cœur du dévot. Ça, c'est la puissance du chant des saints noms en groupe. C'est, il y a rien qui va au-delà de ça, au-dessus de ça. Si quelqu'un dit, moi je suis un humble dévot, Prabhu. Ah oui, jusqu'à quel point t'es humble? Es-tu tellement humble que tu peux te permettre de jamais aller en Sankirtan? La question est posée. Faut au moins aller au moins une fois dans sa vie en Sankirtan. Et une fois, c'est juste un début. Est-ce que vous me suivez?
Tout à fait d'accord.
Alors, c'est pour ça, par exemple, les dévots font un festival qui s'en vient très bientôt. Le Ratha Yatra, le festival des chariots. Les dévots sont en groupe, il y a plusieurs dévots, même de d'autres temples qui viennent et qui chantent en groupe pendant, bon, 2-3 heures, une procession avec le Seigneur Jagannath. Puis ça donne l'opportunité à tous ceux qui regardent, entendent le Saint-Nom, regardent la Murti du Seigneur Jagannath et tout le monde est bénéficié. Ça, c'est Sankirtan, c'est Prabhupada qui établit ça. Le Ratha Yatra. Prabhupada, s'il l'avait pas fait, il n'y en aurait pas de Ratha Yatra à travers le monde. Ça serait juste resté en Inde, à Jagannath Puri, puis point final. Personne connaît dans le monde entier, personne ne connaît le Ratha Yatra. Mais Prabhupada, lui, c'était un de ses désirs d'instituer le Ratha Yatra en Occident. Les dévots ont pris la, si on peut dire, la balle au bon. Puis ils font des Ratha Yatra depuis à travers le monde, dans les grandes villes. Alors voilà, c'est le Harinam Sankirtan. Si vous avez une chance, ben profitez-en. Puis c'est ça, ça va se terminer comme ça aujourd'hui. Alors, toute gloire au Saint-Nom de Krishna, toute gloire au mouvement de Sankirtan, Seigneur Chaitanya. Et puis voilà. Alors, le prochain cours, Benoît, c'est le 17 août. C'était le dernier cours aujourd'hui. On se revoit?
Oui. Bon, certainement, on se revoit.
D'accord.
Oui.
Alors,
bon été.
Dans ce qu'on fait, Benoît, c'est que j'affiche le site web de namahata.ca, l'enregistrement du cours, du dernier cours, comme c'est le cours d'aujourd'hui. Et puis, il y aura la date pour le prochain cours qui va se donner le 17 août.
Le nom du site, c'est quoi?
Ah. Namahata.ca.
Namahata.
Ouais. Si tu regardes en bas, là, tu vois du cahier ici, là?
Oui.
C'est écrit namahata.ca. Le vois-tu?
Oui.
Bon, c'est ça le site que, disons, qui est le site de ce qu'on fait. Okay. Les cahiers de cours sont sur ce site-là et les enregistrements et puis la date du prochain cours, c'est là.
Okay.